Bonjour TMDJC, est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter brièvement ?
Je dois pouvoir faire ça, ouais. Alors je suis TMDJC, mon vrai prénom c'est Sébastien, je suis dans le milieu du jeu de combat depuis 89, jour où j'ai rencontré sur un ferry boat une borne d'arcade avec Street Fighter à l'intérieur, je suis tombé amoureux et ça ne m'a jamais lâché depuis.
Alors on te voit principalement sur le podcast de Bagropoint, comment se déroule de manière générale un podcast ?
Alors les podcasts sur Bagropoint, en fait, on les prépare en général longuement à l'avance. La plupart d'entre nous, en fait, sont déjà très au fait des jeux qu'on va présenter. Pour l'instant, tout ce qu'on présente sont des jeux auxquels nous, on a joué en général beaucoup. Donc c'est des jeux qu'on connaît bien. Dans tous les cas de figure, à chaque podcast, on se remet dans le jeu parce qu'il y a des fois des jeux auxquels on n'a pas joué depuis un long moment. Le but du jeu, en fait, pour nous, est de connaître ce qu'on va dire sur le bout des doigts, qu'il n'y ait pas de temps mort, en fait, lors d'enregistrement, parce que les enregistrements sont quillés du début jusqu'à la fin, sans reprise, à moins d'un grave problème de son, ce qui est très très rare. On essaye de faire en sorte d'être compréhensible. Nathan, notre chef, a pour mission, en fait, de nous cadrer dans ce qu'on va dire. Donc il y a des choses, il y a des jeux qui mériteraient à eux seuls 3 ou 4 heures de podcast. On fait en sorte, en fait, de ne jamais dépasser normalement 1 heure. On essaie de jamais dépasser 2 heures parce qu'on est plus souvent proche des 1h30 que des 1 heure autour du jeu, de manière, en fait, à ce que ce soit agréable à l'écoute, que ce soit pas trop long, mais qu'il y ait assez d'informations pour que ce soit le plus propre possible. Et puis dans tous les cas de figure, on se redocumente un petit peu avant, on voit ce qui a été dit depuis sur les jeux, on a quelques sites de référence sur lesquels on va faire des tours, mais à l'heure actuelle, en fait, on ne parle que de ce qu'on connaît. Donc quand il y en a un d'entre nous qui a un jeu sur lequel, en fait, il a moins de connaissances, on fait appel à un spécialiste qui, lui, en a le plus.
Alors vous avez dit que c'était souvent des jeux que vous jouez personnellement, mais il y a aussi pas mal d'informations qu'on ne voit presque nulle part. D'où viennent ces petites pépites que vous avez seulement vous ?
Alors moi, pour ma part, j'ai stocké énormément de docs de l'époque où je démarrais dans le milieu, des docs qui sont françaises très rares, américaines beaucoup plus et japonaises là énormément. On fait référence en général à ces documentations là. Ce sont des documentations qui naviguent pour l'instant très peu sur Internet. Non pas qu'on n'ait pas envie de partager nos connaissances ou nos docs, mais en fait il y a certains bouquins qui à l'heure actuelle sont toujours en vente et que voilà qu'on scanne pas par principe pour éviter justement de scier la branche sur l'arbre sur lequel est assis l'éditeur, et du coup ça nous permet aussi pendant les podcasts d'arriver avec des choses qui n'ont pas été forcément racontées à l'époque. Dans la mesure du possible, on essaye d'avoir des liens avec les gens qui sont toujours en développement, enfin qui travaillent toujours à l'heure actuelle dans le milieu du développement. Frionel a par exemple pas mal de contacts chez SNK ou chez Capcom, ce qui nous permet des fois d'avoir aussi des informations intéressantes. Sinon, pour ma part, effectivement, c'est surtout lié aux documentations de l'époque. Ce qu'on trouve également aujourd'hui, mais c'est des documentations qui sont beaucoup plus faciles à obtenir.
Alors on peut dire que tu es un ancien, tu as dit tout d'abord que ton premier contact était Street Fighter premier du nom, mais est-ce que malgré tout il n'y a pas un jeu qui t'a plus marqué que les autres depuis 89 ?
Je vais certainement faire une réponse ultra conventionnelle, mais le jeu qui m'a le plus marqué, c'est Street Fighter 2. À l'époque où est sorti Street Fighter 2 en 91, je devais avoir 16 ans. Ce jeu a été pour moi une véritable claque, au point même que j'avais pas tilté sur le coup que Street Fighter 2 était la suite de Street Fighter, parce que Street Fighter est un jeu auquel j'avais joué, que j'avais beaucoup apprécié, mais qui était perdu dans les limbes de mon esprit au moment de la sortie de Street 2. Il a fallu que j'y rejoue plus tard sur NEC pour me dire ah mais oui, mais je connais ce jeu, en fait. Dans Street 2 a été vraiment une claque dans tous les sens du terme. L'image que je garde de Street 2, en fait, ça reste le sprite de Ryu en train de pratiquer un Shoryuken. Je crois que c'est la première image que j'ai quand je pense à Street Fighter 2, et tous les jeux auxquels j'ai pu jouer depuis, en fait, je cherche toujours cette sensation, en fait, que j'ai pu avoir la première fois que j'ai mis les doigts sur Street Fighter 2. Moi, la première fois que j'ai réussi à faire un Hadoken, j'étais aux anges.
Alors tu sais pas que des podcasts, tu es aussi conférencier, on t'a vu dernièrement au Stunfest. T'as une approche un peu différente du jeu vidéo qui est pas juste un divertissement. Qu'est-ce que ça représente le jeu vidéo pour toi de manière générale ?
Alors, le monde vidéoludique, pour moi, c'est un support. C'est un support, et comme n'importe quel support, en fait, tu peux y mettre tout et n'importe quoi. Parce que tu peux y mettre tout et n'importe quoi, je pense qu'il y a du bon comme du mauvais. Au consommateur, après, de savoir si lui juge que ça lui correspond ou pas. Moi, j'ai une certaine éthique. C'est une éthique que j'aime à partager parce que je pense que les mots ont une importance, parce que les images ont une importance, et que lorsque tu te mets à jouer à un jeu pratiquement violent ou à caractère sexué ou etc., je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je pense que ce n'est pas anodin. Et alors après, à nous d'en discuter pour voir justement qu'est-ce qui fait que on réagit de telle ou telle façon par rapport à tel ou tel support. Donc là, c'est vrai quand on est sur tout ce qui est conférence, ça permet d'aborder des aspects que nous on n'aborde pas forcément en podcast, où là on est vraiment dans la présentation du jeu, et c'est le côté geek entre guillemets qui va ressortir. En termes de conférence, on a une approche qui est peut-être un petit peu plus humaine, certainement plus mature, mais qui c'est une partie que je préfère, mais dans lequel je vais certainement devoir utiliser plus de cordes en fait que ce que je fais pendant un podcast.
Alors pour conclure sur une note de légèreté, on voit souvent sur les réseaux sociaux, tu cries de manière rigolote que les gens utilisent de manière abusive le terme versus fighting. Est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce que le versus fighting de manière générale?
Alors non, mais j'en rigole souvent. En fait, c'est pas à moi de savoir s'il faut utiliser ou pas le terme versus fighting. C'est pas moi qui donne les bons points ou pas. Je disais tout à l'heure que les mots ont une importance. Le terme versus fighting, en fait, c'est un terme commercial qui a été inventé par Capcom, et ça ne désigne que des jeux Capcom. Et si aujourd'hui en France le terme s'est largement démocratisé, dans d'autres sphères, en fait, quand tu parles de versus fighting, il y a des gens qui vont tout de suite faire référence en fait à certains jeux auxquels nous on va pas forcément penser, parce qu'on se dit le versus fighting c'est aussi Tekken, c'est aussi King of Fighters, alors que pour la tête dans la tête d'un érudit, c'est vraiment Street Fighter 2, c'est Street Fighter 3, on est dans le domaine justement du versus fighting au sens propre du terme. Le seul truc qui m'embête avec le terme versus fighting, et ce serait vraiment le seul truc, c'est que chacun a sa définition du versus fighting, et que comme tout le monde voit midi à sa porte, tout le monde a l'impression d'avoir le bon terme. Le fait de lui redonner sa véritable place, qui est un terme commercial de Capcom, permet d'éviter justement ce type de quiproquo. Mais voilà, je pense qu'on se comprend. Si jamais tout d'un coup quelqu'un dit je joue versus fighting et qui joue à Tekken, ça ne me pose strictement aucun problème.